Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ceux ou celles que je n'ai pas pu saluer. Donc j'ai pris mon ordi ce matin parce que mon iPad est tombé en rade. Donc merci pour le Seigneur pour la technologie. Donc ce matin, comme d'habitude, quand je prêche, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Il y a tellement de sujets, tellement de choses que nous avons envie de partager, tellement de choses qui sont dans mon cœur. Et j'ai vraiment reçu ces trois mots, racheter le temps. Racheter le temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, je trouve qu'on est tous égaux par rapport au temps, puisque tous ici, personne ne peut dire je n'ai pas 24 heures, je n'ai pas 60 minutes par heure. On a tous en fait le même temps. Mais on a tous aussi des choix à faire. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Ce que nous sommes ou ce que nous deviendrons dépend de l'usage de notre temps que nous avons au quotidien. On peut comparer le temps à un capital que Dieu nous a confié et dont il nous demande de faire un bon usage. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est le maître du temps. Et en même temps, et ça rejoint ce qui vient d'être partagé, c'est que Dieu n'a pas vraiment besoin de vous et puis de moi. Et pourtant, il prend plaisir à nous utiliser et à nous rendre participants à son royaume et à sa gloire. Et donc, il nous a rendus responsables de la manière dont nous gérons le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la crise sanitaire que nous vivons, beaucoup de choses ont été bousculées. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que nos vies ne sont plus vraiment pareilles, même si on a repris un peu notre quotidien, l'école, tout ça, quand même, c'est quand même différent. Et je pense qu'on a tous pris conscience, ou si vous ne l'avez pas encore pris, en tout cas ce matin, c'est le bon moment que notre temps est précieux. On aimerait faire tellement de choses, on dit tiens, j'aimerais faire ci, ça, 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 mais Seigneur, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vais commencer avec un verset que mon papa nous rappelle souvent, que Moïse a écrit dans le psaume 90, verset 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours. » Alors, personne ici ne sait combien de jours il lui reste. Par contre, on peut, plutôt que d'être dans le train-train ou dans la folie quotidienne, se poser et dire ben, « Seigneur, s'il devait me rester 15 jours, 2 jours, une semaine, un mois, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et je crois, en tout cas pour moi, personnellement, c'est une révélation encore plus forte aujourd'hui, de dire que je ne veux plus subir mes journées, je ne veux plus être entraîné par tout ce que j'ai à faire, toute ma liste longue, mais chaque matin, je veux dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où est-ce que tu veux m'utiliser? Où est-ce que tu veux que je sois un instrument de bénédiction pour ta gloire? Et je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, mais peut-être que vous, c'est un peu différent, chacun le vit différemment, mais je trouve qu'il y a une pression énorme. Il y a tellement de choses à faire, et c'est comme si on courait après le temps. C'est comme si ça nous échappait comme du sable entre les mains. On dit « Ah, pétard !» Je voulais faire aujourd'hui ça, 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 j'ai fait que la moitié, que le tiers, j'ai même rien fait peut-être. Des fois, c'est tellement frustrant parce qu'on a envie de faire plein de choses. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'on ne peut pas dire oui à tout. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Tu ne peux pas dire oui. Essaye, tu verras que c'est impossible. Dieu t'a donné un temps limité. C'est peut-être pour qu'on apprenne à faire les bons choix. Et on a besoin de la sagesse de Dieu. Et j'aime ce verset par lequel j'ai commencé parce qu'enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parviennent à la sagesse. Est-ce que la sagesse, alors on sait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, mais est-ce que aussi la sagesse, ça ne serait pas d'apprendre à compter nos jours, d'apprendre de prendre au sérieux le temps que Dieu nous laisse sur cette terre pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Donc on peut vivre ce temps de manière un peu égoïste, dire bah, « Tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire ci, je vais faire ça, partir en voyage, et bien sûr, il n'y a rien de mal à ça. » Mais est-ce que ce n'est pas aussi, comme on l'a chanté dans ce premier chant « Seigneur, je me soumets à ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, hein, il faut le rappeler, il y a du plaisir à faire la volonté de Dieu, mais peut-être qu'il y a une nouvelle démarche à avoir dans ce contexte et en 2022, de dire « Seigneur, je veux te soumettre aussi mon temps ». Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui sont faciles à laisser à Dieu, peut-être c'est votre famille, peut-être c'est votre travail, mais il y a d'autres choses où c'est plus difficile. Et peut-être que le temps, pour certains d'entre nous, c'est difficile de se lever le matin, et est-ce qu'on a ce réflexe de dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ? » C'est plus moi qui vis, hein, c'est Christ qui vit en moi, comme l'a dit Paul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ou est-ce qu'on fait nous-mêmes notre agenda ? Et je crois que le Seigneur veut nous faire grandir en lui disant, Seigneur, c'est ton agenda. Moi, je me soumets à ta volonté. Ainsi, compter nos jours, comme je vous l'ai dit, c'est devenir sage. On ne peut pas dire oui à toutes les sollicitations qui viennent à nous. Et un petit témoignage, quand on était jeune marié avec Elodie, quand on est jeune marié, on a envie de dire oui à tout. Et je me souviens qu'alors qu'on n'avait pas d'enfant, qu'on était juste tous les deux, on était débordés. Pourquoi ? Parce qu'on avait les 30 ans de machin, le mariage de Jules, l'anniversaire du petit cousin, la grand-mère qui m'a... On était de partout. On allait de région en région, d'anniversaire en anniversaire. Et je vous promets, même jeune marié à je ne sais plus quel âge, mais on était crevés. On avait même du mal à se retrouver. Alors, je vous laisse imaginer aujourd'hui avec 3 enfants. Mais heureusement, on a changé notre façon d'agir. Mais on s'est rendu compte que même jeune marié, même sans enfant, on ne pouvait pas dire oui à toutes les sollicitations. Et donc, on a dû apprendre dès le début de notre mariage, des fois dire, écoute, désolé, mais non, je ne pourrais pas venir. Désolé, je suis déjà pris. Apprendre à savoir dire non. Et ce n'est pas facile. Parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous, dire non, c'est dur. Vous aimez dire oui parce que c'est comme si vous trahissiez, c'est comme si vous aviez peur de faire du mal. Mais je pense que grandir en maturité et en sagesse, c'est savoir dire non. Dans l'amour, avec tact, avec plein de bienveillance, mais dire, écoute, je m'excuse, mais là, pour aujourd'hui ou ce soir, je ne pourrai pas venir. Pas besoin de forcément donner toutes les raisons. Mais je pense qu'on doit apprendre en tant que fils et fille de Dieu à savoir dire oui et non. Et c'est la parole qui le dit, que ton oui soit et que ton non soit. Tout ce qui est ajouté vient du malin. Vient du malin, que ton oui soit oui. Et rappelez-vous cette parabole que Jésus donc, a prise, a dit, ben voilà, il y avait 2 enfants, ou je ne sais plus, il y avait 2 fils, et il y a son père qui dit au premier, va s'il te plaît travailler au champ. Il dit, ok papa, il n'y a pas de souci, j'y vais. Mais en fait, il n'y va pas. Et le deuxième, il dit, oh papa, franchement, non, là je suis crevé, machin. Mais au final, il y va. Et puis il pose la question à ce disciple, donc Jésus dit, lequel des 2, à ton avis, a fait le bon choix? Et le disciple dit, ben, le deuxième, ben, tu as bien répondu. Justement, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je pense que, voilà, il faut qu'on apprenne aussi à quand on dit oui, quand on s'engage à quelque chose, on va jusqu'au bout. Et c'est pour ça que si tu dis oui, eh ben, t'es engagé. Donc si tu dis oui à trop de choses, tes engagements vont être compliqués, tu vas être fatigué, tu vas être usé, et ta vie familiale et autre sera compliquée. Éphésiens 5, 15, 17, et c'est le thème et c'est le nom de mon message. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Écoutez bien chaque mot, c'est très précieux. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Ça rejoint le verset d'avant. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors moi, je suis hyper optimiste, mais je dois avouer que même moi, je dis que les jours sont quand même mauvais, sont quand même compliqués, en tout cas. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce verset est tellement riche, je le répète, veillez donc avec soin sur votre conduite. Du soin, je prends le temps, je réfléchis, il y a ma conduite, non comme des fous, on est là, on a une vie de folie, comme beaucoup disent, mais comme des sages. Prends le temps, je ne subis pas mon temps, je ne subis pas mes journées. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. C'est comme si on fonçait sans réfléchir. Non, on prend le temps de réfléchir et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je l'ai dit en début de prédication, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, parfaite. Il y a vraiment du plaisir à marcher avec Dieu parce qu'on porte du fruit, sa présence nous accompagne, on vit des moments extraordinaires à faire sa volonté. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, dans les temps qui courent, de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Parfois, c'est facile, je pense qu'on a tous expérimenté, de dire, Seigneur, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Et c'est comme s'il y avait un droite qui s'affichait dans les nuages. Et d'autres fois, c'est plus difficile. On dit, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas entendre ta voix, j'ai l'impression que c'est plus compliqué, je ne sais pas où je dois aller. Mais Dieu répond toujours. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans Job 36, 14, il dit, mais personne n'y prend garde. Prenons garde à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut te dire pour aujourd'hui? Il veut t'utiliser pour une mission, pour une œuvre, pour bénir, pour vraiment aller et faire des nations des disciples. Mais on ne peut pas aller partout. Dieu veut t'envoyer à un endroit, à des endroits précis. Et on a besoin tous les jours de se nourrir de sa parole, d'écouter sa voix et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Et je crois que c'est une discipline. On a beaucoup prêché ces dernières semaines sur être un disciple. Et rappelez-vous ce que Matthieu nous disait souvent, que dans, et c'est vrai, dans disciple, il y a discipline. Et je pense que c'est peut-être le temps pour plusieurs d'entre nous, moi y compris, à avoir de la discipline avec le Seigneur, non pas comme quelque chose de forcé, quelque chose qui est triste. Je le répète, il y a du plaisir dans la volonté de Dieu, mais prendre des bons réflexes, prendre une bonne routine, de prendre du temps avec Dieu, mais aussi dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Quand tu as une nouvelle sollicitation qui arrive, demande au Seigneur si tu dois dire oui ou non, et il le fera. Comme je vous l'ai dit, on a appris par nos expériences plus ou moins malheureuses avec Élodie, à se poser, dire quand on a une invitation, quand on a un projet qui se présente à nous, on se place avec Élodie, pas tout le temps, mais on essaye le plus possible, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est de toi? Et on ne va pas forcément écouter la logique. C'est pour ça, attention, parfois, il y a des choses qui disent, bah oui, forcément, les 30 ans de... Eh bien, il faut forcément y aller. Peut-être pas. Ou peut-être qu'une invitation de quelqu'un de plus lointain, tu dis, bah, je ne suis pas forcément ami, mais peut-être que le Saint-Esprit, peut-être que le Seigneur t'invite à aller là-bas pour être un instrument de bénédiction, pour peut-être bénir quelqu'un, pour encourager. Donc c'est pour ça, ne faisons pas appel qu'à notre bon sens, mais vraiment recherchons ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est là que nous allons porter du fruit, puisqu'au lieu de s'épuiser, au lieu de tomber en burn-out, on sera plein d'énergie, parce que quand on va là où Dieu nous appelle, forcément on porte du fruit, parce que si Dieu nous appelle quelque part, c'est parce qu'il a un message, il a un sourire, il a une main tendue qui veut que nous puissions offrir et être en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Aimez-nous, aimez-vous les uns les autres. Hein, c'est bien un des plus grands commandements. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et bien, ça passe aussi par ça. Je pense que aimer les autres et puis s'aimer soi-même, c'est savoir dire oui, savoir dire non et savoir être là où Dieu nous veut. Plus nous grandirons en maturité, plus nous saurons choisir les bonnes priorités. Ah, les priorités. Quel beau mot, hein? Quelles sont les bonnes priorités? C'est un vaste sujet, je trouve. Mais ce qui est sûr, alors chacun, on a nos priorités, mais je pense que notre priorité à tous, absolue, doit être Dieu lui-même. C'est notre top priorité, c'est notre high priority, comme disent les Anglais. C'est le top du top. Vivre et être avec Dieu, être rempli de lui. C'est un de mes versets préférés. Soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit, c'est l'un des plus beaux dons qui nous a été donné par Jésus. Soyons continuellement remplis de Dieu. Et ça passe par prendre du temps, ça passe par faire de la place dans nos agendas pour le prioriser, lui, parce qu'il est tout, parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il veut nous parler, nous donner des paroles, il veut nous encourager, il veut nous fortifier. Et on a besoin d'être discipliné pour prendre du temps avec lui. Éphésiens 5, 15 nous dit, « Veillez donc avec soin à votre... » Non, excusez-moi, c'était... Voilà, verset 18, c'était juste après les versets que je vous ai lus. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Ainsi, c'est quoi les fruits? Vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous imaginez les fruits de dingue? Quand on est continuellement rempli de l'Esprit, voilà les fruits qui nous sont décrits dans les versets d'après. On va chanter, donc on va s'encourager par des psaumes, par des paroles, par des cantiques inspirés. On va louer le Seigneur, on va remercier, être dans la reconnaissance aujourd'hui. Même le peu que tu as, si Dieu t'a donné que 5 pains et 2 poissons, sois dans la reconnaissance. Arrête de murmurer, arrête de toujours dire, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Grande gloire à Dieu, Dieu est bon, tu es en vie, il t'a donné peut-être une famille, il t'a donné peut-être un travail, peu importe, il t'a forcément donné des choses. Tout don excellent, tout don parfait nous vient de Dieu. Et on a tous ici un sujet de reconnaissance, tous un sujet pour rendre gloire à Dieu. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous sommes sel et lumière. Comment pouvons-nous être sel et lumière si on passe notre temps à se plaindre, à critiquer, à murmurer? Non, quand des gens sont à côté de nous, ils disent « Putain, mais toi, t'es tout le temps heureux, toi, t'es... » Ben oui, c'est ça. C'est ça notre rôle en tant que chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera jamais par le deuil, par la souffrance. Je n'ai pas dit ça. Mais même au milieu des souffrances, on peut se réjouir. Paul, il dit, bien plus, nous nous réjouissons même dans la souffrance. Oui, on se réjouit même dans la souffrance. Pourquoi ? Parce que la souffrance produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Extraordinaire. Même dans la souffrance, on peut trouver l'espoir. Même dans la souffrance, on peut trouver la joie. Parce que la joie ne dépend pas de nos circonstances. Il pleut, il fait beau, il neige. Peu importe le temps, peu importe ce que nous endurons, Dieu est là. Et rien que ça, ça réjouit nos cœurs. Il nous soutient, il nous console, même au milieu des pires afflictions. Il est là et il nous dit, mon enfant, je suis avec toi. Réjouis-toi. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Oh, combien nous pouvons être reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos vies. Et ça fait partie aussi, je pense, de racheter le temps. Que fais-tu de ton temps un peu dans ta voiture, dans tes paroles? Qu'est-ce que tu proclames? Que ce temps que Dieu te donne à pouvoir prononcer des paroles soit des paroles qui amènent la vie, qui amènent la bénédiction, qui amènent vraiment des choses qui font du bien. C'est incroyable. Dieu nous a donné, c'est ce que nous dit Jacques 3, hein, que la langue, c'est un tout petit membre, c'est un petit gouvernail. Et pourtant, ça peut embraser une forêt. J'ai rencontré des centaines de personnes et c'est vrai que les gens les plus blessés, c'est pas des gens qui ont pris un coup de couteau ou qui ont vécu quelque chose physiquement. Le pire, c'est des gens qui ont été blessés par des paroles, qui ont détruit leur vie ou une partie de leur vie. C'est terrible. Par des paroles, on peut briser quelqu'un comme on peut élever et encourager quelqu'un. Mes frères, mes sœurs, que nos paroles soient douces comme le miel, qu'elles encouragent et qu'elles puissent bénir autour de nous. Oh, combien aujourd'hui le monde en a besoin. Ils ont besoin de savoir que Jésus est là et qu'il n'est pas venu pour les juger, il n'est pas venu pour les condamner, mais il est venu pour les sauver. Et je pense que vous êtes tous conscients de ça et on le voit autour de nous, que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Alors soyons porteurs de cette bonne nouvelle et dans le temps imparti que Dieu nous donne, que ce soit encore quelques jours, semaines, mois, années, dizaines d'années, soyons du miel pour ceux qui nous entourent. Amen. Dans ce temps, c'est mon expérience, mais c'est aussi ce que nous dit la parole, ayons soif de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il se tenait près du temple, juste avant qu'il envoie le Saint-Esprit, il a dit, venez boire à moi, celui qui boira à moi n'aura plus jamais soif. Mais voici, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il faisait bien sûr référence au Saint-Esprit, comme nous le dit la parole. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et je me suis rendu compte de ma petite expérience que plus on a soif de Dieu, plus on a faim et envie de voir sa gloire, de voir sa présence, de voir des choses extraordinaires arriver dans nos vies, et plus ça se manifeste. Parce que Dieu étanche notre soif. Et j'aimerais nous challenger tous, je m'inclus, à grandir dans notre soif. C'est Dieu qui fait ça en nous, mais aussi je pense qu'il nous rend responsables et qu'il nous donne cette opportunité d'avoir soif de Dieu. De ne pas laisser les circonstances, nos soucis de la vie étouffer. Hein, vous vous rappelez de cette parabole du semeur, il y a ces graines qui poussent d'un coup très vite et d'un coup il y a les épines qui étouffent et la fleur meurt. Non, qu'il n'en soit pas ainsi, que les soucis de la vie ne viennent pas étouffer notre passion, notre joie, notre zèle pour l'évangile, notre zèle pour Christ. Et je pense qu'il y a un rappel important que Dieu nous fait ce matin. Dans le temps imparti qu'il te reste, qu'il me reste, soyons zélés pour l'évangile. Soyons passionnés, vraiment qu'on ait une passion pour son nom, que soyons des chrétiens remplis de son esprit, qui avons envie de voir le monde transformé, envie de voir des miracles, de voir sa présence se manifester au milieu de nous, dans le monde, dans Montélimar, en Drôme, en Dauphiné, partout où nous allons. Mais ça, je pense que ça passe par nous. Déjà, si, vous imaginez là, je ne sais pas combien on est, 80, 100, si 80, 100 personnes là qui sont bouillonnants, passionnées pour Dieu, mais tout peut arriver, tout peut arriver. Et ce matin, j'aimerais honorer 5 personnes que je ne vais pas citer pour pas les gêner, mais parce que ça m'a énormément challengé et remis en question aussi. C'est que vous savez, on a la joie avec ma chère épouse Elodie et les Alépiens, Jonathan, Céline et Franck Dillemann, de s'occuper du groupe Fondation, Qu'est-ce que le groupe Fondation? Le groupe Fondation, c'est pour les nouveaux convertis, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui démarrent dans la foi. Et donc, on se voit chaque mardi soir pour un enseignement, pour un temps de louange dans sa présence, mais aussi pour étudier la parole sur les thèmes phares comme le baptême, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, l'Église, tout ça. Et ce qui est magnifique, c'est que ces cinq personnes, elles sont assoiffées. Et il y avait Kélo et puis l'équipe, ça nous a touchés et bouleversés parce que ça nous rappelle, vous savez, ces paroles de revenir à son premier amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas assoiffé, ça ne veut pas dire que nous aussi, nous n'avons pas soif, mais de voir ces cinq personnes tellement assoiffées qu'elles ne veulent pas rater une seule soirée. C'est-à-dire que même, il y a certains qui ont eu le Covid et qui nous ont écrit « S'il vous plaît, déplacez la soirée, je ne veux pas rater !» Mais ça nous a trop touchés. On a dit « Mais waouh, ça, c'est des gens qui ont soif. » On dit « Mais waouh, moi, ça m'a vraiment remis en question. Est-ce que je serais prêt à écrire pour dire « S'il te plaît, déplace la soirée parce que je veux être là, quoi !» C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et pour moi, personnellement, ça m'a remis en question de dire « Olivier, quelle est ta soif ?» Ayant certaines soif, on se réunit à 21h, c'est tard, il a fait moins 5, hein, comme vous avez pu le voir le soir, il fait froid, on reprend la voiture, c'est vrai que c'est un sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est bon ces soirées! Je vous promets, si c'était moi, chaque soirée, un hello, on serait là, c'est tellement bon, Dieu est là. Donc on voit des guérisons, donc on voit des délivrances, donc on voit des demandes de pardon, donc on voit des vies transformées, et ça nous transforme aussi. Je veux dire, c'est extraordinaire, voir Dieu agir, franchement, il n'y a rien de plus beau sur cette terre. Je veux dire, quand Dieu se manifeste dans nos vies au travers de nous, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est ce qui a touché, je pense, le cœur de Dieu chez le roi David, que nous pouvons voir dans la Bible. Pourquoi il était appelé un homme selon le cœur de Dieu? Il n'était pas parfait. Je ne veux pas revenir sur ses fautes. Mais je pense qu'il avait un cœur vrai, un cœur honnête et un cœur qui avait soif de Dieu. Il ne prenait pas garde de ce qu'on pensait de lui. Rappelez-vous, moi, ça m'a tellement marqué et ça me parle pour... Moi qui aime tellement louer Dieu, c'est que David, alors que l'Arche de l'Alliance rentrait à Jérusalem, donc juste, imaginez-vous, hein, il y a plusieurs milliers d'années, c'était très protocolaire, voilà, on ne faisait pas n'importe quoi, et le roi, surtout, voilà, je l'imagine bien vêtu, voilà, qui s'avançait, il y avait peut-être tout un protocole, comme dans un mariage ou autre, et là, l'Arche de l'Alliance arrive, David qui enlève sa veste, qui enlève ses habits royaux, et qui se met à sauter, à danser. Mais j'imagine la tête de tous les participants, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et sa femme, Michal, qui se dit, qu'est-ce qu'il fait à danser comme ça, comme un... Voilà. Mais parce qu'il était tellement heureux. L'Arche de l'Alliance, ça représentait la présence de Dieu. Et il était trop content. La présence de Dieu rentre dans ma ville, à Jérusalem. Elle vient là. Dieu est là. Et il ne prenait pas garde. Il prenait, peu importe ce que les autres pensaient, lui, il était heureux. Et je pense que c'est un rappel pour nos vies, peu importe ce que les autres pensent de toi, ce qui compte, mon ami, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Si Dieu vient là, est-ce que tu es prêt toi aussi à sauter comme un fou et à danser? J'espère que oui. J'espère que oui. Et ça nous remet en question dans le temps qui t'est imparti. Est-ce que tu as envie d'avoir des regrets, que Dieu te donne 80 ans ou moins, de dire, ah, c'est quoi si j'avais su? J'aurais plus dansé comme un fou. J'aurais été un peu plus foufou. J'aurais plus... Voilà. N'ayons pas de regrets. Dieu nous donne, et c'est un cadeau. Quand on sera là-haut sur terre, c'est le summum, bien sûr. Il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de peurs, plus de morts. C'est extraordinaire. Mais est-ce que ce n'est pas, dans un sens, un cadeau que Dieu nous donne dans la souffrance, dans nos moments difficiles, d'avoir ce choix de pouvoir le louer ou non? Là-haut, il n'y aura plus de souffrance, donc on n'aura plus cette opportunité-là. Alors même au milieu des plus dures difficultés, dans le temps que Dieu te confie, choisis la vie. Choisis vraiment de mettre à profit que tout ton être loue le Seigneur. C'est ce que David disait, que tout mon être loue le Seigneur. Tout mon être, tous ses membres qui louent le Seigneur. Et ça, ça rend gloire à Dieu et ça réjouit son cœur. Alors soyons comme des enfants, les amis, dans le temps que Dieu nous confie. Dieu veut ranimer le feu en toi. J'ai vraiment reçu ça. Dieu veut ranimer le feu en toi. Quand j'étais plus jeune, on chantait ce chant « Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta puissance. » et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence, et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Oui, Seigneur, ranime ce feu en nous, Seigneur. Ranime ce feu dans cette église, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, la passion pour ton nom, le feu, Seigneur, qui ne vient que de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que tout ce qui est mort en nous, que tout ce qui a dépéri, Seigneur, reprenne vie au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur, ce sont les vivants qui te louent, Seigneur. Viens, Seigneur, viens au milieu de nous, Seigneur, manifester ta puissance. Nous voulons voir des signes et des prodiges. Nous voulons voir ton esprit agir à nouveau, Seigneur. Baptise-nous à nouveau de feu et d'esprit, Seigneur. Nous avons soif de toi, soif du Dieu vivant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Rachetons le temps. Rachetons le temps que Dieu nous donne. Mettons Dieu en priorité dans nos vies. Et cela passera, c'est sûr, par certains changements radicaux dans notre agenda. Mais laissons-nous toucher et corriger par Dieu. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent, mais Dieu corrige. Non pas avec un fouet, mais il corrige avec amour. Quel est le papa, quelle est le maman ici? Quelle est la maman ici qui ne corrige pas son enfant? Corriger, je ne parle pas forcément d'une fessée, mais je parle de reprendre son enfant, de l'aider à grandir. Et il y a ce beau proverbe qui nous dit « Corrige l'enfant dès sa jeunesse, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et Dieu fait pareil avec nous, puis nous corrige, mais avec amour, parce qu'il est bon. Il est bon, et il aime, et il vient redresser parfois ce qui est courbé. Il vient réaligner ce qui ne va pas dans nos vies. Alors ce matin, j'avais aussi à cœur de vous parler des braises. Les braises, c'est une vision que Dieu nous a donnée il y a 2 ans, qui en fait n'est pas nouveau, hein, puisque c'était déjà le cas il y a 2000 ans de se retrouver dans les maisons. Mais cette année, on a décidé en fait de se voir ici les 3 premiers, chaque dimanche, sauf le dernier du mois où on se voit dans les braises, mais aussi tous les 15 jours, un soir de la semaine, idéalement, chez l'habitant. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, vous voyez, être une centaine, c'est super, c'est magnifique, de louer le Seigneur ensemble, de vivre ces temps comme maintenant, c'est extra. Mais on ne peut pas vivre la même chose que quand on est juste 5 ou 10 ou 15 maximum parce qu'on va pouvoir échanger ce qu'on vit. Tiens, et toi, comment tu vas? Et alors, ton travail? Prier les uns pour les autres, vivre des temps, en famille, dans la grande famille. Et ces temps-là sont vraiment importants, donc je vous invite, si vous ne faites pas partie d'une braise, que vous êtes à Connect, venez me voir pour que je puisse vous donner le nom d'un responsable pour que vous puissiez joindre une braise. Mais je voulais vraiment insister sur ces soirées qui, pour être honnête, n'ont pas vraiment prise depuis septembre, pris par différentes choses, et je ne porte aucun jugement puisqu'on est tous très occupés. Mais j'ai senti que c'était important en tant que responsable de nous encourager à nouveau pour ces braises du soir. Pourquoi ? Parce que je vous promets, les amis, deux choses que Dieu m'a dit. La première, ce verset qu'on cite tout. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et deuxièmement, je l'ai expérimenté. Dans ma jeunesse, un soir par semaine, on se réunissait dans ce qu'on appelait les réunions maison, qui sont une sorte de braise. Et je vous promets, on avait un carnet de prières. On faisait 2 colonnes, sujet de prière et réponse aux prières. Le carnet était plein. Des dizaines et des dizaines de réponses à nos prières. Des travails trouvés, des réconciliations, des pardons, des célibataires qui trouvaient celle ou celui que Dieu avait prévu pour eux. On a vu quoi d'autre? On a vu des guérisons, on a vu des délivrances, on a vu des réconciliations, père, enfant, fille, maman, on a vu des dizaines et des dizaines de réponses à nos prières. Oui, ça a été cité ce matin, la prière du juste a une grande efficacité. Et je nous invite, à l'instar de plusieurs ici, vraiment d'avoir cette soif de se réunir. Peut-être que pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait, mais ne le faisons pas en disant, bon, j'y vais, peut-être c'est vrai, de ressortir à 8h30, prendre la voiture. Des fois, on se dit, oh Seigneur, mais que c'est bon. Et ça m'arrivait plein de fois, des fois, je le partageais à Elodie. Des fois, je me souviens qu'on était fatigué. Pour être transparent, j'avais aucune envie d'aller à cette soirée. Mais à chaque fois, Dieu s'est manifesté. À chaque fois, Dieu a honoré ce pas de foi, dire, même au milieu de la fatigue, même au milieu du froid, même au milieu de peu importe. Eh bien, j'étais là. Et surtout, Dieu était là et il nous a bénis. Alors, je voulais nous encourager en tant qu'Église. Ne délaissons pas les braises. Et je ne le dis pas vraiment, pas du tout, ni comme un jugement, ni comme une obligation, mais comme un plaisir de se retrouver avec des frères et sœurs et de prier. Et faites ce cahier. J'aimerais encourager chaque responsable de braise. Prenez un cahier, je vous l'achèterai même s'il faut. Mais prenez ce cahier, deux colonnes, tac, sujet de prière, réponse aux prières. Et je suis certain, mais certain, convaincu qu'à la fin de l'année, si votre carnet n'est pas plein, en tout cas, il y aura des dizaines de réponses aux prières. Parce que Dieu répond. Dieu répond. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Et je trouve que c'était encore plus un défi. Je suis transparent avec vous. Je trouve qu'aujourd'hui, prier, aujourd'hui, prendre du temps pour la prière, moi, ça me paraît encore plus difficile qu'il y a 3 ans. Je trouve que ce Covid, que tout ça, ça a mené une certaine léthargie, une certaine flemme. Et non, nous devons lutter contre ça, les amis. Ne nous endormons pas. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Que notre lampe reste allumée. Que l'huile ne manque pas. Que l'huile ne manque pas. Cette huile du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli de l'Esprit. Et de se voir peut-être tous les 15 jours. Avec d'autres rencontres, bien sûr. Mais de se voir tous les 15 jours, ça va, je pense, nous garder éveillés ensemble. Et de voir Dieu agir, c'est extraordinaire. Si tu pries, si tu vis des choses et que Dieu ne fait rien, soyons honnêtes. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va s'arrêter. Mais si Dieu répond, t'auras trop envie d'être là, c'est ce qu'on vit le mardi soir. Dieu est tellement présent, Dieu agit tellement que personne n'a envie de rater ces soirées-là, parce que Dieu est là. Et je sais, et je le crois, que ce sera pareil dans nos braises, ce sera pareil dans chacune de nos rencontres. Si nous venons avec ce cœur assoiffé, Seigneur, j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif de toi. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas à venir me voir, si vous voulez qu'on en reparle. Ou si vous n'avez pas de braise. Je vois le temps, je fais rapide sur le point 2, mais parce que j'ai vraiment envie de m'arrêter sur le point 3. C'est que je voulais vous parler de la différence entre le temps chronos et le temps kairos. Ecclésiaste 1, verset 1-2 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher à ce qui a été planté. » Et vous connaissez ce verset « Dieu fait toute chose belle » en son temps. Et l'Ecclésiaste 8, 6 aussi nous dit pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Le temps chronos, c'est ce que j'ai partagé, je vais très vite, mais on y est tous soumis, c'est nos 7 jours, nos 24 heures, nos 60 minutes, c'est le temps qui est linéaire. Mais le temps kairos, celui-là, il est extra. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de Dieu. Le temps kairos représente le temps de l'occasion, de l'opportunité pour rentrer dans le plan de Dieu. Ce ne sera pleinement vrai que si le kairos nous amène dans une rupture, un déchirement, un renoncement par rapport au chronos. C'est-à-dire, comme je vous disais, on est pris dans le chronos à fond, à fond, à fond. Et là, d'un coup, stop, Dieu nous rencontre. On fait une pause, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a vraiment cet arrêt pour rencontrer Dieu. Le mot kairos a donné en latin opportunitas, ce qui signifie opportunité. Quand on vit des temps kairos, il y a souvent un avant et un après. Ce sont des rencontres avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer dans notre temps chronos, dans notre tumulte de la vie, il veut nous rencontrer. Et plus ces temps kairos, plus ces temps sont intenses, sont fréquents, et plus ça nous remplit. Quand Dieu nous visite, on ne peut pas rester indifférent. Et je vous partage un témoignage que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai un des partenaires professionnels qui voulait m'inviter. Donc, pour parler business, ça, et franchement, voilà, étant très pris, je crois même avoir écrit un texto pour dire non. J'en parle à Hello, puis quand même, je dis, je vais quand même prier. Je prie et je sens que je dois y aller. Pourtant, franchement, c'était une grosse semaine, j'avais pas trop envie d'y aller. J'y vais, pendant une heure, on parle de business ou quoi, et puis après, on parle perso comme ça, parce que c'est un jeune aussi, donc on se tutoie, tout ça. Et puis, en parlant perso, d'un coup, j'ai comme une parole. Et je ne sais même plus comment ça arrive, mais de suite, je me mets à l'enseigner sur le pardon. Et il me regarde comme ça, il me dit, mais on t'a dit quelque chose ? Je dis, ben non, je ne te connais pas, je ne peux pas... Et en fait, je déballe ce que Dieu m'a dit. Et là, je commence à avoir des larmes dans ses yeux. Donc, il me dit, mais c'est incroyable, comment tu peux savoir ça? Comment tu peux savoir ça? En effet, j'en veux à mort à quelqu'un dans ma vie et j'arrive pas à pardonner. Et j'ai pu l'enseigner, j'ai pu l'encourager. Et je voulais prier avec lui, puis malheureusement, ça ne s'y est pas prêté. Mais j'ai dit, écoute, je prierai pour toi, pour que Dieu te donne la capacité de pardonner. Parce que le pardon ne va pas d'abord libérer la personne, mais toi. Tu es emprisonné dans ce non-pardon. Et donc, au début, donc, il me disait, non, mais franchement, je ne vois pas trop d'impact dans ma vie ou quoi. J'ai dit, ah bon? Et puis, pareil, j'ai dit, et par rapport à ça pas. Il me dit, ah oui, c'est vrai que là, en effet. Et c'est extraordinaire, c'était un temps kairos, c'était un temps, dans mon temps chronos, je n'avais pas envie. Mais j'ai dit, Seigneur, ok, sur ta parole, je jetterai mes filets. J'y suis allé. Et incroyable, ce que Dieu a fait. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est un temps kairos, comme je vous l'ai dit. Sachons saisir les opportunités, kairos moment, que Dieu met sur notre route. Comme je vous l'ai dit, chaque décision, Seigneur, veux-tu que j'y aille? S'il te dit oui, n'y va pas à reculons, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi et pour les personnes que tu vas rencontrer. Voilà, j'avais d'autres choses à vous dire sur ça, mais je sens que je dois avancer, parce que je voulais vraiment prendre quelques minutes aussi sur mon troisième point, sur le repos. Le sabbat, le shabbat, peu importe comment vous l'appelez. Mais ce point paraît contraire et avec le thème de ma prédication, puisque moi, je vous dis racheter le temps, et là, je vais vous parler de se reposer. Mais si la Bible encourage à racheter le temps, c'est vrai qu'on pourrait se dire, Seigneur, je ne dois pas perdre une miette de mon temps et m'activer au maximum. Et pourtant, Dieu lui-même s'est reposé le septième jour. Pendant six jours, il a travaillé activement, et il a créé des choses magnifiques, les étoiles, le soleil, la mer, la terre, vous, nous. Et le septième jour, il s'est reposé. Dieu qui se repose, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment besoin de se reposer? Et Genèse 2, verset 2-3 nous dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit, j'ai souligné ces mots, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Sanctifier, alors c'est peut-être, des fois ça ne parle pas trop, vient du grec agiazo, et veut dire purifier, mis à part. En fait, quand Dieu dit « et il le sanctifia », ça veut dire qu'il le mit à part. Et c'est un encouragement pour nous, je pense qu'il n'y a pas de plus beau modèle que Dieu. Si Dieu s'est reposé lui-même le septième jour, peut-être que nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Et on continue dans Deutéronome 5, verset 12-14. « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint. » Donc, saint, mis à part. « Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. » Donc, tu vas à fond. « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ton fils, ta fille, ni ton esclave, ta servante. » Merci Seigneur, il n'y a plus d'esclaves. Pas ici en tout cas. « Ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. » Ce temps de repos, Shabbat en hébreu, n'est pas une option pour nous chrétiens, mais c'est un modèle à suivre. Ce jour de repos est un temps mis à part pour Dieu et pour notre famille. C'est un temps pour découvrir la parole de Dieu en famille, l'adorer, jouer ensemble, faire la fête. C'est un temps pour se recentrer et témoigner de ce que Dieu a fait durant la semaine. Et je nous encourage, c'est pas, je le répète, c'est pas une option. Quand on dit mettre un jour à part, c'est mettre 24 heures à part vraiment pour Dieu, pour sa famille, savoir se reposer. Et dans la saison ou dans les temps dans lesquels nous sommes, je trouve que se reposer, c'est devenu de plus en plus dur. Si nous ne sommes pas intentionnels, je pense que ce sera très compliqué de savoir s'arrêter et se poser. Et nous, depuis le confinement, le premier confinement, on a mis ça en place dans notre famille, tous les vendredis soirs. Voilà, la semaine est terminée. Et on sait qu'on a 24 heures à passer en famille, à passer vraiment avec Dieu, à se rappeler durant ce vendredi soir ce que Dieu a fait. C'est un temps de témoignage. Alors les enfants, qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies? Parce que vous avez un témoignage à raconter. D'autres fois, ça a été un temps pour se demander pardon. On s'est peut-être blessé, il y a eu quelques mots qui ont volé par-ci, par-là. C'est peut-être le temps de se demander pardon. C'est un temps de jeu. Donc on sait que ce soit un temps de fête. Souvent, donc à l'époque, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, c'était la fête. Il y avait un bon repas, il y avait des rires. C'est pas quelque chose de solennel, c'est pas quelque chose d'ennuyeux. C'est quelque chose où il y a la fête, où il y a des rires, où vraiment on prend du temps à se reposer en Dieu avec sa famille. Et je nous y encourage, si Dieu nous a montré ce modèle, si lui a mis ce temps à part, nous devons aussi, pour notre bien, pour le bien de notre famille, pour le bien de notre communauté ici, mettre ce temps à part. Et mettre ces 24 heures à part. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, peut-être un autre jour dans la semaine, si certains d'entre vous, le mercredi ou autre. Mais je trouve que de finir la semaine avec ce septième jour de repos, que ça a du sens. Et nous, depuis qu'on le met en pratique, avec plus ou moins de succès, parfois c'est pas toujours ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Et on repart la semaine reposée, restaurée, remplie. On a besoin de se reposer. Et vous savez que les 10 commandements, c'est marrant, mais tous, vous les prenez, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que le numéro 6, c'est tu observeras le jour du sabbat. Tu observeras le jour de repos. Et celui-là, quand vous prenez les 10, c'est le seul, enfin moi en tout cas, je me suis rendu compte, c'est le seul que je ne mettais pas en pratique. Alors je reprécise, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais ça ne veut pas dire que ces préceptes, que ces prescriptions qui nous ont été données tombent et ne servent plus à rien. Non, si Dieu nous a donné ces 10 commandements, c'est pour notre bien. Et ce jour de repos, je vous le redis, il est autant important que de lire sa Bible, que de jeûner, que plein de choses comme ça. Ça fait partie de notre vie en tant que disciples. Sachons nous reposer et on évitera tout ce qu'on entend, les burn-out, les crises d'angoisse, les tout ça. On a besoin de ce temps de repos. Moi, en tout cas, ces temps sont devenus vitaux pour moi, pour ma famille, pour chaque membre, pour les enfants. Ils sont tout contents que quand on rentre le vendredi midi, ils disent « Ah ouais, ce soir, c'est Shabbat !» Parce qu'ils savent, c'est le repos, c'est le sabbat, parce qu'ils savent que c'est la fête. Ils savent que ça va être un temps en famille. Oh combien c'est important. Je nous encourage à sanctifier, à mettre à part ce jour comme Dieu l'a fait. Non pas comme une obligation religieuse, mais comme un plaisir à faire la volonté de Dieu, en priorisant la présence de Dieu et notre famille. Sa volonté, je le rappelle une troisième fois, est bonne, agréable et parfaite. Et s'il a dit que ce temps de repos, ces 24 heures de repos, était bon pour nous, alors Seigneur, je vais obéir et je vais le mettre en pratique avec joie, parce que je sais que les fruits seront abondants pour nos maisons. Et si on a des couples forts, si on a des familles fortes, on aura une église forte. Je ou nous vous voulons en bonne santé, physique, mais aussi mentale, psychique et en famille. Si on se déchire à la maison, qu'est-ce qu'on va vivre ici ? Ça sera que du faux. Mais si on vit des belles choses en famille, si on rencontre Dieu en famille, mais ici, ça va être l'explosion. Ça va être extraordinaire. Alors, les amis, rachetons le temps. Et racheter le temps, c'est aussi apprendre à se reposer le septième jour. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Et j'avais à cœur qu'on puisse prier ensemble pour quelques sujets. Si mon frère Sam, tu peux te mettre au piano. Je précise, il n'y a rien de magique ce piano, mais ça nous met vraiment dans la présence de Dieu et ça nous fait du bien à l'âme pour recevoir. Et j'avais envie de commencer par la fin, quand j'ai dit « Seigneur, pourquoi tu veux qu'on prie ?» Ben, chanter que la priorité, c'était ce que je viens de partager, ce jour de repos. Ce jour de repos, peut-être que tu le sais, voilà, tu es quelqu'un qui est active, tu aimes toujours que ça dépote, et tu as vraiment du mal à te reposer. Et c'est comme si je sentais que le Seigneur voulait t'encourager ce matin, à t'engager et à dire « Seigneur, je te demande pardon, je me repens. » Je rappelle que la repentance, c'est « je fais de demi-tour. » « Seigneur, je me repens d'avoir vécu comme dans l'activisme. Et je choisis aujourd'hui de rentrer dans ton repos, de travailler à mon repos, Seigneur, de prendre ce septième jour, Seigneur, pour me reposer en toi. Parce que je sais que tu as des fruits abondants, que tu as des choses extraordinaires, que tu veux que je vive en famille, avec mes voisins peut-être aussi, avec mes parents, peu importe, hein, qu'on soit célibataire, marié, avec enfant ou non, on peut vivre ce temps entre amis, famille, mais ce temps de repos. Alors si ça te parle, ce que j'ai partagé, et que tu sais que c'est vital pour ta vie, je t'invite simplement à répéter cette prière après moi. Père, merci parce que je sais que tout ce que tu donnes est bon, tout ce que tu fais est bon. Et je me repens, Seigneur, de ne pas avoir obéi à ta parole, de mettre ce jour de repos à part, de sanctifier ce jour comme toi, tu l'as fait. Aujourd'hui, Seigneur, je fais demi-tour et je choisis, Seigneur, de sanctifier, de mettre à part ce jour de repos pour moi et ma famille, Seigneur. Je l'ai chanté, moi et ma famille, nous te servirons. Et ça passe aussi, Seigneur, par observer ce jour de repos, Seigneur. Seigneur, libère-moi de tout activisme. Libère-moi, Seigneur, de remplir mes journées, mes semaines, de plein de choses que tu ne m'as pas demandées. Apprends-moi, Seigneur, à entendre ta voix et à ne faire que ta volonté, que ce que tu me demandes de faire, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te donne mon temps. C'est dur, ça. Je te donne mon temps, je te donne mon agenda, Seigneur. Et je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la continuité, j'ai vraiment à cœur de prier pour les temps kairos. C'est comme si tu as l'impression de subir tes journées. Tes journées s'ajoutent, se ressemblent, s'assemblent. Voilà, c'est souvent la même chose, mais tu as surtout l'impression de subir tes journées. Et tu es fatigué. Tu es là, mais Seigneur, combien de temps? Et je sens qu'il y a une femme ici qui a eu cette parole encore ce matin. Elle dit, Seigneur, pendant combien de temps? Combien de temps je vais vivre ça? Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. C'est le même refrain. Je suis fatigué, Seigneur. Dieu a entendu ta prière. Samuel l'a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu veut changer ton temps chronos, ou en tout cas apporter du temps kairos dans ce temps chronos qui ne s'arrête pas. Apporter ces temps de rencontre avec Dieu, ces temps où Dieu va t'utiliser, et même dans ton foyer, avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes amis, avec tes voisins. Et je sentais que le Seigneur voulait nous encourager à lui consacrer notre temps et à lui consacrer nos journées. Tu peux aujourd'hui décider et dire, Seigneur, stop, j'arrête de subir ma vie. J'arrête de subir mes journées. Mais pose-toi, comme Jésus a dit, quand on construit une tour, on s'assoit et on calcule la dépense. Et bien, assieds-toi et avec Dieu, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je réaligne avec ton ciel? Et j'aimerais inviter ces personnes-là, si c'est toi, vraiment, j'aimerais partir en prier pour toi, alors qu'on a tous les yeux fermés. J'aimerais juste t'inviter à lever ta main, parce que j'aimerais vraiment prier spécifiquement pour toi. Tu subis tes journées, elles se ressemblent, et tu sens que tu cours après le temps, et tu aimerais plus vivre ces temps et avec Dieu, plus voilà, choisir, faire des choix pour tes journées, pour que Dieu puisse se manifester et y aller plus sens. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, qui descend maintenant, Seigneur. Tu viens toucher, Seigneur. Il n'y a pas de fatalité avec toi. Ma sœur, Dieu veut te dire, il n'y a pas de fatalité. Dieu peut tout changer en un instant. Et ce matin, il fait quelque chose de nouveau, de nouveau. C'est une saison nouvelle, une saison de rafraîchissement, une saison de bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, veux-tu me confier ton temps? Veux-tu me confier ton agenda? Je t'invite à le faire et à le proclamer de ta bouche. Seigneur, je te donne mon agenda. C'est ce qui est de plus cher presque pour toi. C'est ton temps, ton agenda. Dieu te dit, laisse-le-moi. Fais-moi confiance. Car mes projets sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Saison nouvelle, Seigneur, où tu te manifestes avec puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et pour finir, j'avais à cœur de prier pour un groupe aussi, pour choisir les bonnes priorités. Aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, Dieu a un peu été relégué à la deuxième, troisième ou dixième place. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement intense, tes journées, ta semaine, que presque tu te retrouves à dire, c'est fou, j'ai plus le temps de prendre du temps avec Dieu. J'ai plus le temps, alors que c'est lui le maître du temps. Et je sentais qu'il y avait comme un avant et un après que Dieu voulait faire dans ta vie. De dire, Seigneur, je veux remettre les bonnes priorités dans ma vie. C'est comme, on a prêché plusieurs fois, c'est un peu comme la dîme. Quand je reçois mon salaire, la première chose que je fais, je donne les prémices de mes revenus, c'est pareil. Dire, Seigneur, alors que ma semaine démarre, je veux la démarrer avec toi. Qui c'est qui a besoin de mettre ses priorités, remettre ses priorités un peu à l'heure, pour passer les bonnes priorités dans sa vie. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut t'y aider, veut t'encourager. Il veut te donner la force de remettre les bonnes priorités. Dieu, ton conjoint, tes enfants. Je sens vraiment qu'il y a plusieurs personnes à qui ça parle. Remettre les bonnes priorités dans ta vie. Est-ce que tu peux lever ta main? J'aimerais prier pour toi aussi. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Dieu te donne une nouvelle capacité. Vraiment, je sens ça pour toi, ma sœur. Que Dieu, il est avec toi. Tu as comme ce sentiment des fois d'être esselé. Mais Dieu te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et c'est comme si le Seigneur voulait te faire prendre encore plus conscience qu'il était là. Tous les jours, alors que tu te lèves, il est là. Tu te couches, il est là. Tu cuisines, il est là. Tu travailles, il est là. Tu fais ça, il est là. Dieu est là, de prendre conscience de la présence de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Mais la louange, vraiment, je sens que le Seigneur veut faire de ta maison une maison de prière et de louange. Où, vraiment, un lieu où réside l'Éternel, un lieu où Dieu prend plaisir à venir, à se mouvoir et à faire des choses extraordinaires. Oh oui, Seigneur, que nos maisons soient remplies de ta louange et de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Amen, Seigneur. Je veux te remettre, Seigneur, chacune de nos vies. Je prie, Seigneur, pour notre temps, Seigneur. Que notre temps te soit consacré. Que tu nous aides, Seigneur, à bien utiliser le temps et à racheter le temps imparti que tu nous laisses sur cette terre. Oui, nous vivons l'éternité avec toi. Oui, tu nous appelles déjà à régner sur cette terre. Avec toi, nous sommes sel et lumière. Mais Seigneur, ô combien nous avons besoin de ta sagesse. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos heures, nos jours pour faire les bons choix, Seigneur. Pour que nos vies soient un parfum de louange, pour que nos familles reflètent ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez richement bénis. Je repasse la parole.
Amen. On peut remercier Olivier. Merci pour cette parole tellement importante. C'est tellement, vous savez, revenir aux fondamentaux, toujours, comme c'est tellement important de revenir à la simplicité, mais aussi à la puissance et à l'autorité de la parole et de Dieu dans nos vies. Donc je nous encourage vraiment à mettre en pratique ce qui a été prêché ce matin, parce que je pense que où que l'on soit dans notre parcours avec Dieu, eh bien, on avait quelque chose à en tirer pour progresser, puis grandir avec Dieu et voir là où il veut nous emmener dans notre vie et puis dans cette période que nous vivons. Donc merci beaucoup. Olivier, tu devais prêcher plus souvent. Non, je le taquine. Non, super, merci. Mais écoutez les amis, c'est la fin de notre célébration. Vous pouvez aller chercher vos enfants et bien remercier les personnes qui s'en sont occupées. Et je prends cette opportunité aussi pour remercier toutes les personnes qui servent dans l'Église. En fait, il y a plus ou moins tout le monde ou presque tout le monde qui sert dans l'Église. Et heureusement, parce que sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Mais je veux redire à chacun que le plus petit des services, de la porte d'entrée jusqu'à tout ce qu'on fait derrière, devant, à la technique,